VOA Afrique, les infos. À Washington.
Jean-Roger Billon, il est 11h en temps universel. Bonjour à tous. La mairie de Kinshasa a autorisé une marche de l'opposition prévue vendredi pour exiger l'abandon de l'utilisation de machines à voter à 2 mois des élections en République démocratique du Congo. L'hôtel de ville nous a écrit pour prendre acte de l'organisation de la marche contre la machine à voter, a déclaré à l'AFP l'opposant Vital Kamerhe, un des 21 candidats à la présidentielle prévue le 23 décembre. Une réunion des ténors de l'opposition congolaise est annoncée aujourd'hui et demain à Johannesburg en Afrique du Sud. La désignation d'un candidat commun de l'opposition à la présidentielle est l'un des principaux points à l'ordre du jour de cette rencontre. Au Zimbabwe, l'opposition appelle au dialogue et à la formation d'un gouvernement transitoire d'urgence pour mettre fin à la crise politique et économique qui s'aggrave dans le pays. Eric Manirakiza.
Selon Nelson Chamisa, dirigeant de l'opposition, la première chose à faire pour le pays est de s'engager sur le chemin d'un dialogue politique. Le leader du mouvement pour le changement démocratique, MDC, souligne ensuite que Harare a besoin d'une autorité transitoire nationale pour pouvoir résoudre la crise. Nous sommes prêts à discuter, a dit M. Chamisa, qui a indiqué avoir rencontré des responsables religieux qui réclament l'ouverture d'un dialogue politique entre l'opposition et le président Emmerson Mnangagwa. La crise économique et financière de 2008 a entraîné le pays dans une spirale d'hyperinflation. Les pénuries et les hausses de prix actuelles sont les pires depuis cette période. Les prix de nombreuses denrées de base ont plus que doublé en moins d'un mois. La situation dans les hôpitaux est préoccupante. Au moins 50 personnes sont mortes du choléra depuis septembre. M. Chamisa a déploré l'absence de leadership jusqu'à dire que la nation est orpheline.
Le gouvernement burundais a annoncé qu'il serait absent de la dernière session du dialogue de sortie de crise au Burundi, prévue à partir de ce mercredi à Arusha, en Tanzanie, et destinée à évoquer l'organisation d'élections inclusives en 2020. Le mois d'octobre étant un mois de deuil au Burundi, le gouvernement a suggéré un report de la session que la facilitation a convoquée ce 24 octobre et garde l'espoir que cette dernière s'associe, comme d'accoutumée, au Burundais, dans ce moment de tristesse, a annoncé mardi soir le gouvernement sur son compte Twitter. Le parti au pouvoir au Burundi, le CNDD-FDD, a également indiqué mardi dans la presse locale qu'il ne serait pas représenté à Arusha si le gouvernement du Burundi et la facilitation ne s'accordaient pas sur les personnes qui prendront part à la session de signature de la feuille de route menant vers les élections de 2020. Au Cameroun, la victoire du président Paul Biya, réélu à un 7e mandat à 85 ans et après plus de 35 ans au pouvoir, confirme selon les observateurs que le système politique du pays est loin de se déverrouiller. Les institutions d'État et les médias publics sont sous le contrôle strict du parti au pouvoir. Pour l'avocate Alice Koum, la mobilisation populaire sur le terrain ne pouvait rien apporter à l'opposition tant que le système restait tel quel. Jointe à Douala par Bagasikoura, l'avocate Alice Koum.
Ce n'est pas la mobilisation qui fait la différence, qui fait le résultat. Le système est super plombé. L'alternance est complètement verrouillée à la sortie, surtout, et à l'entrée. Dans un pays comme le Cameroun, où l'absence de séparation de pouvoir a été minutieusement étudiée depuis le départ, notre président de la République, qui est le chef de l'État, dont la vie est réglée par la Constitution, est en réalité le président du parti politique et son candidat naturel. Donc la confusion est déjà à ce niveau-là. Donc il a accès aux moyens de l'État, il a accès aux populations, à toute administration qui, elle, est implantée partout et payée par tout le monde. Il leur donne des véhicules sur le budget de l'État pour faire la campagne pour le candidat qu'il est.
Et justement, beaucoup se sont posés des questions sur l'indépendance même du Conseil constitutionnel. Ce mardi, on a appris que la résidence du président de ce Conseil était en construction. Est-ce que cela ne fait pas que confirmer tous ces soupçons-là?
Mais bien sûr que ça confirme les soupçons. Le message qu'on nous envoie, c'est que personne n'a la moindre marge de manœuvre dans le processus électoral. Tout le monde dépend de lui. D'abord, le président du Conseil constitutionnel avait été mis à la retraite. Il s'était reconverti dans l'avocature. Il a commencé à tirer le diable par la queue. On le sort, on le met président du Conseil constitutionnel. Le président a compris une chose extraordinaire, c'est que c'est même pas la peine de se fatiguer. Il suffit de tenir les hommes qui sont chargés de faire marcher les institutions. Et ce sont des gens qu'on tient parce que tous sont nommés par décret, ne sont pas élus. Et ils sont nommés par quelqu'un qui sait qui se sera candidat. Et qui sait qu'il va avoir besoin qu'on dise que c'est lui qui est élu? Fatigue même pas, je fais pas de campagne, ça ne l'intéresse pas.
Est-ce que c'est pas peut-être le moment aussi d'aller vers des réformes au Cameroun, comme on a vu un peu partout ailleurs, des réformes du système électoral, mais aussi des réformes des institutions?
Mais c'est le même qui est le seul qui peut faire des réformes, puisque c'est lui qui tient toutes les... Il est aux législatives, c'est lui qui initierait éventuellement des réformes. Quoi voulez-vous qu'il fasse une réforme d'un système qui lui convient autant? Enfin, il ne faut pas être fou.
Ce qui était frappant aussi lors de cette campagne électorale, c'est de voir que la CRTV couvrait systématiquement tous les événements du parti au pouvoir et ne participait pas aux événements de l'opposition.
Mais c'est évident. Et rien n'étonne là. Tout le monde est préparé pour orienter tout ce qu'il a à faire vers l'élection du président. Tout le monde. Ils savent, les consignes sont données à l'avance. Quand on les nomme, on sait que telle personne sera plus à même de... Il ne peut pas ne pas. Voilà. Donc c'est lui qui sait à l'avance. Pourquoi il te nomme là?
L'avocate camerounaise Alice Koum, jointe à Douala. La principale coalition de l'opposition togolaise a accusé mardi une nouvelle fois le pouvoir de violer les décisions de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, alors que des élections législatives et locales sont prévues en décembre. La coalition de 14 partis politiques à l'origine des manifestations qui secouent le pays dénonce des irrégularités dans l'organisation du scrutin et au sein de la commission électorale et dit donc craindre des fraudes. Les parlementaires éthiopiens vont élire demain jeudi le nouveau président du pays suite à la démission de celui qui occupait jusqu'à présent ce poste essentiellement honorifique. Une séance à laquelle doivent participer les deux chambres du Parlement est prévue à cet effet. Les parlementaires doivent y accepter officiellement la démission du président actuel, Mulatu Teshom, qui occupait cette fonction depuis 2013, puis élire le nouveau président. Le Kremlin s'est dit mercredi prêt à discuter d'une éventuelle visite du président Vladimir Poutine aux États-Unis l'année prochaine, comme l'a suggéré le conseiller de la Maison-Blanche à la sécurité nationale John Bolton. Nous sommes prêts à examiner une telle possibilité, a déclaré aux journalistes le porte-parole Dimitri Peskov, précisant toutefois qu'aucune décision concrète n'a été prise à ce sujet.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington, une fenêtre sur le monde.
Il est 7h08 à Washington. Le meurtre odieux du journaliste saoudien Jamal Khashoggi est impensable. Sans le soutien des États-Unis, a déclaré aujourd'hui le président iranien Hassan Rouhani en Conseil des ministres. Je ne pense pas qu'un pays ose faire une telle chose sans le soutien des États-Unis, a déclaré M. Rouhani dans une allocution retransmise par la télévision d'État iranienne. L'émissaire onusien pour la Syrie, Stéphane de Mistura, est attendu ce mercredi à Damas pour une visite destinée à lever l'opposition du régime syrien à la création d'un comité constitutionnel chargé donc d'élaborer une nouvelle constitution. Stéphane de Mistura, qui a annoncé la semaine dernière qu'il quittera ses fonctions à la fin novembre, devrait rester quelques jours dans la capitale syrienne. Ce déplacement à Damas, je le précise, s'effectue à l'invitation des autorités syriennes. Le plus important groupe militaire israélien, Israel Aerospace Industries, a annoncé mercredi la signature d'un accord pour la fourniture à la marine indienne de systèmes de défense aérienne d'une valeur de 777 millions de dollars. Ce méga contrat porte sur la livraison de la version marine de systèmes de missiles anti-aériens destinés à 7 bâtiments de la marine indienne, indiqué le groupe public israélien dans un communiqué. Le contrat a été conclu avec le groupe public indien Bara Electronic, avec qui Israël avait conclu l'année dernière un contrat portant sur le même type d'équipement d'une valeur de 630 millions de dollars. Et puis attendu aujourd'hui l'élection d'un nouveau président de l'Assemblée nationale de l'Algérie, 5 partis dont le Front de Libération Nationale du chef de l'État Abdelaziz Bouteflika doivent effectuer donc ce vote aujourd'hui au Parlement et donc un nouveau président est attendu. Jean-Roger Billon à ce micro, c'est avec cette nouvelle algérienne que nous terminons ce journal. Le prochain journal, c'est dans 50 minutes. Il vous sera présenté par Nanit Talani. À tout à l'heure.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.